Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand et consacrée à l'écrivain Nicolas d'Estienne d'Orves et à son nouveau livre, Le Dictionnaire amoureux du mauvais goût, qui vient de paraître aux éditions Plomb. Pour tout vous dire, c'est une émission pré-enregistrée réalisée par l'ami Xavier Lecomte que je salue très amicalement. Le livre dont nous allons parler est un peu un objet littéraire non identifié. On doit à Nicolas d'Estienne d'Orves plusieurs ouvrages, notamment un dictionnaire amoureux de Paris, lui aussi publié chez Plomb, des romans comme ceux que l'on sait de Max Topart publiés chez Alma Michel en 2022 et plusieurs recueils de nouvelles. Nicolas d'Estienne d'Orves est un digne héritier de Marcel Aimé. Cet anticonformiste assumé a en effet l'art et la manière de jouer les passe-murailles et de déconcerter son lecteur par des trouvailles bien à lui. Dans ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, il est notamment question du regretté Jean-Yves Lafesse, ou bien encore de Jean Yann, de Martin Monestier, que l'auteur qualifie de scribe de l'improbable. Voilà, j'espère avoir attisé votre curiosité et je vous laisse découvrir de ce pas l'univers de cet écrivain joyeusement singulier. Bonjour Nicolas d'Estienne d'Orves.
Bonjour.
Alors, je suis ici chez vous, dans votre univers, où il y a, j'irais, plein d'arrêts sur image. C'est important l'esprit des lieux pour écrire, Nicolas d'Estienne d'Orves?
Ah, pour moi, c'est presque essentiel. Je ne peux écrire que dans certains lieux, à certaines heures, dans une certaine tenue, en buvant certaines choses. C'est-à-dire que je suis... les écrivains sont souvent des gens de rituels. Et moi, si j'ai pas ce cadre-là, ça veut pas dire que l'inspiration vient pas, mais c'est plus difficile. J'ai besoin d'avoir une sorte de petit cocon, et cet endroit est vraiment un cocon. Donc c'est... Oui, pour moi, c'est les lieux, l'esprit des lieux et l'âme des lieux, c'est essentiel.
Bon, alors au sang, vous venez de publier aux éditions Plomb Dictionnaire amoureux du mauvais goût. C'est un livre qui vous ressemble, on pourrait dire. C'est un livre comme un portrait en creux de l'écrivain que vous êtes.
D'abord, c'est le principe de la collection Dictionnaire amoureux, c'est-à-dire un écrivain, un sujet dont il n'est pas le spécialiste, théoriquement, justement, il faut être un peu dilettante par rapport au thème. Et en fait, on parle de soi par le truchement d'un thème qu'on a choisi de développer de A à Z. Et en fait, j'avais fait Paris, il y a 7 ans, pour Jean-Claude Simone, directeur de la collection, m'a proposé de faire Paris, qui était un sujet passionnant. Et ils m'ont proposé d'en faire un autre. Et en fait, à l'origine, j'avais proposé les séries télé, qui est un thème que j'adore. Et je suis un bouffeur de séries télé, un dévoreur de séries télé depuis 20 ans. Et en fait, j'ai commencé... Et j'y arrivais pas, j'ai calé parce que toutes les semaines, il y en avait une nouvelle encore meilleure que la semaine précédente. Donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé dormir un peu. Et puis quelques années plus tard, en fait, j'avais fait chez Michel Lafon un petit encyclopédie du mauvais goût, mais qui était un album, qui était un livre illustré avec un petit texte et une grosse photo. Et je me suis dit que j'avais envie de développer ça, mais de façon très sérieuse, creusée et appliquée. Et j'ai proposé, le mauvais goût, ça vous intéresse? Et ils ont dit oui, ils ont dit, on a eu La bêtise par François Rollin, L'inutile par les Morel père et fils. Les anti-dictionnaires amoureux, maintenant, on aime ça, donc vas-y, lance-toi dans le mauvais goût, c'est ce que j'ai fait.
Voilà. Alors, quelle est la définition du mauvais goût, Nicolas d'Estienne d'Orves? Est-ce un marqueur social? Parce que ça, vous en parlez, puisque le bon goût des uns n'est pas forcément celui des autres.
Alors, le mauvais goût, c'est la notion la plus indéfinissable et la plus fluctuante qui soit. Comme je dis, j'ai passé 600 pages et environ 200 entrées à essayer de le cerner, de le capter, de le capturer. En fait, je sais toujours pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est toujours... J'allais dire le plouc ou le snob de quelqu'un. On est toujours... Le mauvais goût, c'est celui de la génération d'avant, c'est celui de l'autre dont on se méfie. C'est pour ça que pour moi, c'était important de diviser le mauvais goût en deux camps, ce que j'ai fait dans mon dictionnaire. D'un côté, le mauvais goût que j'aime, que je défends, que je promeus, que je mets en valeur, que je surligne, où j'ai mis un cœur. Et de l'autre côté, le mauvais goût que je n'aime vraiment pas, qui pour moi, ça pourrait être la laideur, la bêtise, et que j'ai mis avec un as de pique. Et en fait, pour moi, dans l'absolu, le mauvais goût, c'est peut-être le premier degré systématique. Le mauvais goût, il y a toujours une sortie de route, il y a toujours un décalage, il y a toujours de l'humour, il y a toujours de l'ironie, de la désinvolture. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est le mauvais goût, j'allais dire intelligent.
Il y a des émoticônes, d'ailleurs, qui pourrait aussi faire partie du mauvais goût.
Ah bah, je voulais ce livre comme quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que les dictionnaires amoureux sont assez cadrés. Là, j'ai mis des petits émoticônes, comme dans les guides touristiques, ou surtout comme dans cette collection qui m'a fasciné quand j'étais adolescent, qui sont les guides noirs des éditions Chou. Il y avait le guide mystérieux de Paris. Et je les ai tous achetés. Je les ai tous, il y en a une quinzaine. Et c'est des mines d'informations, et surtout d'informations bis. C'est-à-dire, c'est la face B de l'histoire officielle. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est voir ce qui est de l'autre côté de la porte. Ce qui, a priori, intéresse moins sur un sujet, sur un univers, sur une personne, c'est savoir pourquoi une sorcière habitait dans telle rue, savoir pourquoi il y avait des légendes dans tel pays. Et cette collection géniale des guides noirs, il y avait des petits symboles, un petit chat, une petite étoile, une petite ruine, pour à chaque fois définir le thème. Et alors moi, j'ai fait ça à ma façon, c'est-à-dire, là, pour le coup, on voit une aubergine pour les histoires sexuelles, on voit un petit étron pour les histoires scatologiques, voilà, ce genre de choses, parce que là, mon âme potache et provocatrice s'en est donnée à cœur joie.
Ouais. Alors, voilà ce que vous écrivez. Nul n'est plus fuyant que le mauvais goût. Toujours il échappe à une définition, une famille, un clan. Plus loin, le mauvais goût peut également être une frontière sociale, un racisme de classe. Telle voiture, telle habitude, telle interjection serait le stigmate d'une naissance trop modeste ou trop huppée que le camp opposé toise, etc. Et c'est vrai que, en fait, est-ce que le bon goût ou le mauvais goût, et c'est pas partageable? Pourtant, moi, en vous lisant, finalement, je me suis fait ma liste aussi. Ma liste de mes préférences et de mes détestations.
Bah, c'est ça qui est très amusant, c'est que quand j'en parle maintenant, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, quand le livre est sorti, les gens me disaient, mais tu travailles sur quoi en ce moment? J'arrivais chez des amis, à un dîner, dans un restaurant ou dans un groupe, j'ai dit, je fais un dictionnaire du mauvais goût. Et avant même que j'explique ce sur quoi je travaillais, la conversation durait un quart d'heure parce que chacun avait déjà quelque chose à dire, chacun disait, ah, j'espère que t'as mis ci, que t'as mis ça. Et 9 fois sur 10, ça tombait à côté parce que le mauvais goût est tellement subjectif, tellement partial. Il y a autant de mauvais goût que d'individus sur cette planète, c'est-à-dire beaucoup et même de plus en plus. Donc, c'est ça qui est absolument délicieux, c'est que c'est un livre, c'est une collection subjective. Et là, on est dans la subjectivité au carré. C'est-à-dire que c'est d'une partialité et d'une injustice et parfois d'une mauvaise foi totalement revendiquée. Et c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que si on est dans le, on est quand même dans l'humour, dans le décalage, comme je dis, dans la sortie de route. Et voilà. Et je pointe des choses. Et surtout, je suis très content quand les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a personne qui peut être d'accord sur toutes les entrées. Enfin, j'espère. Parce qu'il y a des entrées qui sont délibérément provocatrices, qui sont délibérément poil à gratter, parce que c'est comme mettre un pétard dans une crotte de chien. Ça fait rire certaines personnes et d'autres non. C'est pas un livre consensuel du tout.
Voilà ce que vous écrivez. Le mauvais goût ne se partage pas en ce qu'il est une exploration de nos propres frontières esthétiques, la ligne de crête entre ce que l'on goûte et ce que l'on recrache. Bienvenue dans mon train fantôme. Donc il y a un côté ludique, enfantin et voilà, et profondément à rebours des modes.
Mais en fait, je suis un sale gosse et je le revendique. Et là, vraiment, je me suis lâché. J'ai une liberté de ton complète. Je dois dire que chez Plon, ils m'ont laissé faire absolument ce que je voulais, écrire et dire des choses extrêmement libres de ton. Je dois dire défendre, enfin en tout cas mettre en valeur des auteurs qui n'ont pas vraiment pas voué au chapitre. Enfin bon. Et moi, ce qui m'amusait, c'est d'aller jusqu'au bout d'une forme de provocation, mais tout ça dans un contexte, voilà, courtois. Il y a pas d'injure, il y a pas d'insulte. Ça servait à rien. C'est-à-dire que mais ce qui en même temps, c'est un livre qui vraiment me ressemble. Ce sont mes goûts, mes détestations, mes irritations et mes passions. Et en fait, c'est un livre dictionnaire amoureux de mon mauvais goût. Et c'est un dictionnaire amoureux de ce que j'aime et ce que je n'aime pas d'une manière générale.
Alors, premier mauvais goût que moi que je partage, c'est vrai que j'ai toujours été mitigée pour Albert Cohen. Voilà. Et j'ai adoré la parangon du lyrisme merliflu et de superbe guimauve stylistique, ce roman d'Albert Cohen est le plafond de verre littéraire de nombreuses naïades qui l'exhibent. Donc c'est à propos de Belle du Seigneur. Et c'est vrai que j'ai toujours, je sais pas pourquoi, toujours été un peu partagée vis-à-vis de son lyrisme.
Bah, Belle du Seigneur, ça avait surtout le côté, disons quand j'étais ado et jeune adulte, c'était le classique incontournable. Il fallait l'avoir lu, Belle du Seigneur. Il fallait l'avoir dans sa bibliothèque parce qu'on était fiers, on avait pu affronter les 800 pages. Bon, je vous avouerai que quand j'ai lu, j'ai été assez impressionné et c'est ça qui m'agace a posteriori, c'est que je suis replongé dedans et ça m'est tombé des mains. Autant j'aimais les autres livres de Cohen, les livres d'avant, Solalt, un livre magnifique, le livre de ma mère, Ô vous frères humains, tout ça. Mais Belle du Seigneur, c'est too much, comme on dit maintenant. C'est énormément de surcharge. Et puis surtout, ça avait le côté, voilà, c'était inattaquable. C'est-à-dire, ah oui, mais alors moi, j'ai lu Belle du Seigneur, comme si c'était, comment dirais-je, voilà, j'ai fini Guerre et Paix ou les Karamazov. On est quand même, boxe quand même pas dans la même catégorie. Et donc c'était presque le côté classique instantané incontournable qui m'agaçait plus que le livre en soi. Et c'était vraiment le, quand vous alliez chez les gens, il y avait le Bel du Seigneur toujours bien en valeur, l'édition NRF avait un peu abîmé, qui montrait bien qu'il y avait des taches de doigts, que ça avait été lu avec passion et parfois avec agacement, mais les gens ne l'admettaient jamais.
Alors aussi sur la littérature de genre, voilà ce que vous écrivez au sujet de Serge Brussolo. La littérature de genre est toujours suspecte, les précieux font la fine bouche, estimant que le plaisir de lecture est un pas de côté pour le bon goût. Et c'est vrai que Serge Brussolo, voilà, vous parlez longuement de lui. Et puis de cette notion de littérature de genre, où ça peut être aussi une impasse pour certains auteurs.
Alors moi je suis de l'école pour le coup disons anglo-saxonne ou latino-américaine, où la frontière des genres est quelque chose de totalement abstrait. On est en France où il faut mettre, soit on fait du polar, soit on fait de la science-fiction, soit on fait de la littérature traditionnelle, soit on fait du récit. Moi, j'appelle ça des livres, du roman, du romanesque. J'aime le glissement d'un genre à un autre. Et Brussolo, c'est un type dont j'ai découvert les œuvres à la fin des années 90 et qui m'a fasciné parce que c'est quelqu'un, comme je dis, qui sécrète de l'imaginaire. Il a publié 200 bouquins et 200 romans qui ont tous une forme de singularité, d'originalité. Il a fait tous les genres. Il a fait de la science-fiction, du western, du roman post-apocalyptique, du roman préhistorique, du roman traditionnel, tout. Et à chaque fois, avec une identité et une intégrité et une originalité absolument soufflante. Je l'avais rencontré à l'époque. Il a même fait de la littérature jeunesse. Et les gens regardaient. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours horripilé. Je veux dire, il suffit de voir les articles qu'a reçu Simenon pendant des années. Je veux dire, les gens considéraient malgré tout que c'était de la littérature de gare parce qu'on l'achetait dans les gares. Mais enfin, à cette époque, si la littérature de gare d'aujourd'hui avait le niveau de Simenon, la littérature se porterait mieux et les lecteurs aussi. Et voilà. Et pour moi, une des grandes victoires, c'est par exemple quand Simenon est entré en Pléiade. Pour moi, c'était évident. Et ça fait partie pour moi des plus grands écrivains, enfin des prosateurs français, des plus grands romanciers du XXe siècle. Parce qu'on m'avait dit une fois une formule que je trouvais très juste, on m'avait dit « Simenon, c'est Balzac après Freud ». Et pour moi, ça résume exactement ça.
C'est vrai. Et pour Serge Brussolo, vous dites « L'un des nombreux paradoxes de cet écrivain est qu'il déteste le roman policier et ne lit presque jamais de littérature fantastique, son livre de chevet, Les Illusions perdues ». Donc, voilà, on n'écrit pas pour un genre, on écrit parce qu'on écrit.
On écrit parce qu'on a besoin d'écrire, parce qu'on a des histoires à raconter, parce qu'on a envie de faire partager une passion, une obsession, des hantises, des terreurs à des lecteurs et qu'on veut les capter, les capturer. Moi, là, je suis avant tout romancier et pour moi, la meilleure des critiques, c'est quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai commencé ton livre, j'ai pas dormi de la nuit, il fallait que je le finisse ». Pour moi, ça vaut toutes les légions d'honneur littéraires du monde. Arriver à, disons, kidnapper quelqu'un, à l'hypnotiser juste par le pouvoir des mots, quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce, que éventuellement je ne connais pas du tout, et qui soit accroché à mon univers, qui croit, qui rentre dans mes obsessions, c'est prodigieux. Ça, c'est pour moi, ça veut dire que ce que je fais a un sens et que ma vie a un sens, tout simplement.
C'est important, l'univers, parce que là, c'est le mot que j'ai employé. Quand on a commencé notre conversation, Nicolas Destiendorf, c'est important cet univers. Par exemple, pour Brussolo, vous dites « Brussolo est l'un des seuls écrivains français qui secrète l'imagination comme d'autres mangent ou respirent. Il la décline alors sans fin en un admirable kaléidoscope romanesque dont l'ampleur et la richesse devraient intimer le silence à bien des fausses gloires. » Donc cet univers romanesque, le roman pour vous, hein, vous êtes un romancier.
Oui. J'aime la fiction, j'aime l'imaginaire, j'aime le fait que de l'autre côté de ce mur, il y a peut-être un monde parallèle. C'est-à-dire que la littérature d'idées et tout ça sont des choses que je respecte, mais d'abord que je ne serais pas capable de pratiquer. Mais arriver à inventer un monde à partir de rien, faire du plein avec du vide, c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est pour ça que j'ai une fascination pour ces... Pour la tradition du grand roman populaire du 19e siècle. Pour moi, le maître absolu, ça reste quand même, enfin, le maître livre, ça reste Monte Cristo, que j'ai découvert en fait assez tard et que j'ai relu l'été dernier. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très long, assez mal foutu, avec des rebondissements improbables, des tuilages pas clairs, et c'est génial, on est happé, on est hypnotisé, on ne lâche pas le truc, et qu'un livre écrit il y a maintenant deux siècles, provoque un tel enthousiasme, une telle jubilation, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde.
Je vous comprends. Un autre poil à gratter, Roger Perfitte. C'est vrai que celui-là, je m'en souviens du temps d'apostrophe. Hein. Vous dites c'est une sorte de cocteau pour pissotière, voilà.
Ah ben, ça c'était vraiment, ça c'est, ça, pour le coup, il avait vraiment toute sa place dans le livre. C'était un personnage extravagant qui vendait énormément de livres, dont le premier livre, Les Amitiés Particulières, était un bon bouquin, qui avait beaucoup de talent et qui est devenu une espèce de commère télévisuel, et sa spécialité, c'était d'écrire des grands romans à clé où il expliquait, en fait, lui, il était persuadé que tout le monde, que tous les messieurs étaient des homosexuels refoulés. Donc, il a relu toute l'histoire de la littérature et l'histoire mondiale. À l'aune de ça, il a fait une grande biographie d'Alexandre le Grand en expliquant que, de toute façon, il était homosexuel refoulé, ou même assumé que c'est ce qui expliquait son génie et sa folie. Et à la fin, ou alors il allait sur les plateaux de Pivot et il se débrouillait pour dire des horreurs pour avoir des infos sur les intervenants. Enfin, bon, alors moi j'aime bien, c'est le provocateur absolu, c'était un empêcheur de tourner en rond, mais ça fait partie aussi de ces gens qui, c'est terrible, mais remarquez, c'est une bonne école d'humilité, mais qui, dès l'instant où ils meurent, leur œuvre meurt en même temps qu'eux, plus personne ne lit Roger Perfitte, plus personne ne sait qui c'était, alors que c'était un auteur qui vendait des centaines de milliers de livres à chaque fois, et qui a duré un demi-siècle, et qui était omniprésent à la télévision, à la radio, qui était très drôle. Quand on va sur Internet, on voit des choses assez extravagantes, qui avait une liberté de ton inimaginable aujourd'hui, puis c'était l'époque bénie du direct, on pouvait dire les choses sans être coupé. Mais il faisait preuve, pour le coup, dans son attitude, dans son comportement, d'un mauvais goût assez extravagant, justement.
Et puis, alors, moi, je vous dis un peu la liste que je partage, en fait, pour le moment. La notion d'éphémère, étrange chose que cette tyrannie de l'éphémère, alors que le devoir de mémoire est devenu un impératif catégorique, pour ne pas dire une dictature, on se goberge de lieux fugaces, de plaisirs volés au temps. Voilà. Et ça, c'est vrai que le goût de l'éphémère, l'art éphémère, c'est à la mode, quoi.
Bah, et surtout, mais ça c'est lié, hélas, à ces petits engins qu'on a dans nos poches et qui nous tiennent lieu de disque dur externe et de mémoire hors cerveau, c'est-à-dire nos téléphones. Maintenant, regardez les gamins sur TikTok, où avant il y avait Snapchat, ces choses-là, où tout à coup c'est des petits films qu'on regarde qui durent quelques secondes et qu'on oublie aussitôt. On est dans une époque de poisson rouge, c'est-à-dire que le rapport au temps, la mémoire, l'accumulation, même le sens du par cœur à l'école, ce genre de choses, c'est-à-dire muscler notre cerveau, c'est quelque chose qui disparaît. Et donc les gens n'ayant plus de mémoire, et ben en fait ils ont plus vraiment de culture, ils n'ont plus de références, ils prennent les choses au premier degré, on ne remet plus en perspective, et ça donne des gens qui prennent tout de façon extrêmement violente, qui prennent toute remarque ironique au premier degré comme une insulte, alors que non, c'est la subtilité du langage, c'est justement de glisser entre les mots. Et voilà, c'est la disparition des synonymes, de la nuance. La nuance, c'est quelque chose de tellement subtil. On a une langue merveilleuse qui fait que pour un sens, on a cinq mots qui, à chaque fois, il y a une variation. Et maintenant, on est dans une génération, surtout la jeune génération, je dois dire, où il y a un mot égale un sens, c'est tout. Et donc, toute la subtilité du langage et même de la littérature et de l'art en général, c'est de naviguer entre ces nuances, tout comme les nuances des couleurs, les nuances de la musique. Voilà, le thème variation, c'est ça qui aboutit à la création. Sinon, on est vraiment dans le logarithme froid et dans des rapports humains qui sont univoques et sans charme et sans profondeur et sans subtilité, parce que sans ambiguïté.
Vous parlez d'ailleurs du lifting permanent et de la vie botoxée. Donc le botox d'ailleurs fait partie, je crois. Voilà. Et puis aussi, vous parlez de sorte de rire un peu obligatoire, le dictionnaire des histoires drôles. Il n'y a pas de rire absolu et rien n'est plus fragile que l'humour, dites-vous.
Alors le dictionnaire des histoires drôles, là c'est intéressant parce que ça montre aussi la relativité du rire et à quel point le rire est quand même ancré dans son temps. Ça a été un des best-sellers des années 60, c'était sorti chez Fayard, compilé par un type qui s'appelait Hervé Nègre, et c'était un gros volume, et ensuite ça a été le best-seller du livre de poche en deux volumes pendant des années. Moi je l'avais quand j'étais petit, et alors effectivement ce sont des blagues pour le coup homophobes, racistes, aussi cocasses, potaches, il y a tout, mais c'est-à-dire que tout est dans une même cuve, ce n'est pas, et effectivement c'est inimaginable aujourd'hui. Alors certaines de ces histoires sont drôles ou pas drôles, que ce soit même l'histoire raciste ou homophobe, il y en a des drôles et des pas drôles, comme c'est toujours le cas, mais ça montre à quel point c'est un peu mon cheval de bataille, mais à quel point la liberté de ton et la liberté de rire étaient plus plus général, il y a encore 20 ou 30 ans. Voilà, moi je fais partie de la génération qui a grandi en voyant le professeur Chon, la télé, et en lisant du Réser, et en lisant le Harakiri de la grande époque, c'est-à-dire pas le Charlie Hebdo que c'est devenu, mais la vraie époque de GB, de Volinsky, de tous ces gens-là qui tirait de tous les côtés le rire, ce qu'on appelle le rire radical, c'est-à-dire que il y a pas de le rire ne s'arrête. Moi, j'aime part du principe, c'est terrible à dire, mais tout est. On peut. Je suis pour l'ironie globale, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un interlocuteur qui a un peu de second degré, ben voilà, il comprend, il prend du recul. Et quand on voit la liberté de ton de ce que disait Choron parfois, ou même ce que faisait Cavana et tout ça, c'est même la nouvelle génération de Charlie Hebdo n'ont remarqué ça leur a pas porté chance, mais n'en sont jamais allés à ce point-là dans la violence, une sorte de brio dans l'ordure et dans l'invective atroce, mais tellement drôle et tellement libératoire et tellement, il y a un côté jouissif dans une sorte, l'esprit bête et méchant pour moi. Moi, je viens de cet esprit-là. Et pour moi, ou Roland Topor, évidemment, tous ces gens-là, il y avait une liberté, il y avait une folie qui s'est corsetée ensuite, je trouve.
Le seul contre-exemple, dites-vous, serait pour moi les fascinantes brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, car jamais les locuteurs n'ont cherché le comique, ce qui confère à leur saillie une innocence presque angélique et d'une incontestable poésie. Donc c'est vrai, les brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, c'est aussi...
Là, on est vraiment dans la poésie pour le coup, parce que ce sont des choses. Parfois, je me demande si quand même il en a pas inventé certaines, mais il est tellement doué. Voilà, lui faisait partie de la bande aussi de Merci Bernard avec Topor, avec GB, avec Grib et tout ça. Donc il y a une espèce de poésie dans la quotidienneté absolue de ces remarques. Et les comptoirs, c'est aussi quelque chose qui disparaît. C'est-à-dire que les, je vais pas faire le vieux con, mais le café du coin est remplacé par un Starbucks ou par un pôle, le vrai comptoir, le zinc, l'époque où on était assis, où il y avait des œufs et où on pouvait fumer, il y avait des piliers de comptoir, je sais pas si ça existe encore, en tout cas, Paris, moi, j'espère qu'il y en a encore, mais bon, je pars toujours du principe que je suis né trop tard. Je crois qu'il continue à en faire, Gouriot, mais il y a encore des endroits, mais c'est juste, c'est avoir l'esprit aiguisé, avoir savoir regarder, savoir écouter, savoir observer. Et pour moi, c'est un vrai chasseur de poésie urbaine, en fait.
Ouais. Et vous aussi, vous êtes un chasseur ou un cueilleur. Par exemple, vous parlez, les rires enregistrés, ça me rappelle Bénil, par exemple, on entend les...
Ah bah Bénil a droit à son entrée, parce que j'ai grandi je regardais ça avec un mélange d'appétit et de... pas de dégoût, mais presque, parce qu'en fait, ça m'a jamais vraiment fait rire, mais j'étais assez effaré de voir des adultes qui se livraient à de tels simagrées, et apparemment, m'avait-on dit ensuite, c'est qu'en fait, c'était, pour le public français, c'était remonté, que ça n'était pas exactement la même chose, et pourtant, c'était très bien doublé par Roger Carrel, qui était un type génial, mais c'était très, ça a toujours été une sorte d'apothéose pour le coup de mauvais goût ou de non goût et qui est resté longtemps à la télévision et parfois je revois ça, je me dis mais comment est-ce que quelqu'un pouvait même concevoir de mettre en scène ces sketchs pas drôles avec des gags pas drôles et qui tombaient à chaque fois à plat. Et d'ailleurs, à la même heure, quelques temps plus tard, on a eu Merci Bernard.
Oui, voilà. Donc, mais c'est vrai que ça avait un côté. Il y avait un côté ritournel. Enfin, c'était toujours pareil avec le pas en accéléré, le rire. Pour les rires enregistrés, voici ce que je veux dire. À mon sens, ces gloussements sont aussi écœurants qu'embarrassants. Pire. Il tue le rire, l'engorge. Donc c'est vrai, il y a aujourd'hui d'ailleurs, on a de l'humour qui n'en est pas vraiment un.
Ben ça a l'air déjà le fait de sursignifier une chose, de dire ah maintenant il faut rire. La merveille du rire, c'est que ça arrive, c'est que ça arrive par surprise, tout attrape quand on s'y attend pas. Alors que quand on nous dit c'est comme les chauffeurs de salle, vous savez, qui viennent j'ai deux choses qui m'ont toujours horripilé pour le coup, c'est et les rires enregistrés et le principe du doublage, c'est-à-dire de plaquer une voix sur quelqu'un qui ne même si dans le genre on le faisait avec talent comme Roger Carrel, c'est ce que disait Jean Renoir, enlever la voix d'un acteur, vous lui enlevez son âme. Effectivement, il faut que j'ai des enfants qui regardent des mangas, des animés comme ils disent, et ils le regardent en japonais. Même si je leur dis écoutez, je veux bien vous regarder ça mais ça a été pensé par des gens dans une langue, donc regardez-les dans la langue. Pour moi, c'est très 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 important.
Et la voix aussi.
Ah bah la voix, quand on voit, on n'imagine pas un film avec Louis Jouvet ou même avec Fabrice Lucchini doublé par un improbable comédien dans je ne sais quel pays. Je veux dire et les gens disent ouais, moi je vais pas au cinéma pour lire. Je veux dire franchement ça prend 3 minutes de s'habituer et on n'y prête plus attention. C'est comme la bicyclette ou l'automobile. Donc ça c'est encore une forme de paresse. Enfin l'intégrité d'un film passe avant tout passe aussi bien par son image que par sa bande son.
Actuellement, on réécrit certaines œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous connaissez la réponse. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle du révisionnisme, tout simplement. C'est-à-dire, l'une des grandes plaies de notre période contemporaine, c'est de juger le passé avec les critères du présent. Donc ça s'appelle de l'inculture et ça s'appelle une révolution culturelle dans ce que ça a de plus dangereux. C'est-à-dire quand je vois qu'ils prennent les livres de Roald Dahl, qui sont des livres pour enfants, on a grandi avec ça. Et en plus, pour changer des mots qui sont pas méchants, parce qu'il dit vieux et gros. Enfin, je veux dire, ça m'arrive d'être gros et je suis en train de devenir vieux. On a le droit de dire ça. Enfin, c'est-à-dire que cette obsession de la crainte d'offenser qui que ce soit fait qu'on vit dans on doit tout stériliser. Et puis il y a les histoires de James Bond. On supprime à peu près toute la littérature, tout le cinéma. Ça n'a plus aucun sens de plaquer de la morale. Et puis surtout une morale très circonstanciée, faite juste pour plaire à un certain public qui en fait s'en fout surtout. Parce que généralement, ce n'est pas le public qui est visé, c'est pas les gros et les vieux qui s'en offusent, c'est les éditeurs qui ont peur de poursuites judiciaires. Enfin, tout ça, c'est l'histoire de fric, hein. Voilà, de poursuites judiciaires ou de scandales sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça, effectivement, ça, c'est des craintes financières.
Okay. On va faire une petite pause musicale et puis nous reprenons notre conversation, Nicolas Destiendorf.
Inflammation of the foreskin reminds me of your smile. I've had balanitis chancroids for quite a little while. I gave my heart to MSU that lovely night in June. I ache for you, my darling, and I hope you'll get well soon. My penile warts, your herpes, my syphilitic sore, your manilial infections, how I miss you more and more. Your doobies itch my scrapbooks, our lovely gonorrhea. Sealed the secret of our tryst. You gave me scrotal pustule with a quick flick of your wrist. Your trichovaginitis sent shivers down my spine. I got snail tracks in my anus when your spirochetes met mine. But you never were a bore. I'm dying from your love, my love. I'm your spirochetal clown. I've left my body to science, but I'm afraid they've turned it down.
Gonna
Anna Destiendorf, nous sommes toujours en train de discuter autour de votre livre « Dictionnaire amoureux du mauvais goût ». Et donc, il y a, c'est vrai que moi, le premier, c'est les selfies, moi, qui me sont venues à l'esprit quand on m'évoque le mauvais goût. Vous dites « Gilgamesh du pauvre, chaque promeneur est désormais le héros de sa propre épopée, qu'il soit Tokyoïte, Carioca, Letton ou Sagalais, c'est lui-même qu'il met en scène. La lèpre du selfie a vérolé, c'est vrai, toute idée de voyage, d'exploration et de partage. C'est vrai que c'est moi, moi, moi et toujours moi.
Mais c'est surtout ce besoin d'acter notre présence quelque part. On ne va plus voir un endroit, on va s'inscrire dans un lieu, le temps d'une photographie qu'on prend soi-même, c'est-à-dire que c'est le, une fois de plus, là on est dans l'égotisme au cube, dans le, mais c'est pas l'égotisme Stendhal, c'est l'égotisme iPhone 14. Donc ça n'a pas de sens, et je prends toujours l'exemple de la Joconde, où en fait je me dis, mais si j'étais la Joconde, qu'est-ce qu'elle fait la Joconde maintenant? Elle voit des nuques, elle voit des nuques et des écrans, donc elle va, on n'est plus dans la caverne de Platon où on voit des simulacres, qu'on est encore plus loin dans l'ombre chinoise, et c'est terrible, c'est-à-dire que les gens ne profitent plus des endroits, ils ont juste besoin d'acter leur présence, de mettre ça sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent qu'ils sont là, mais eux-mêmes ce qu'ils pensent de l'endroit, le plaisir qu'ils peuvent ressentir ou le déplaisir à être dans un lieu, ça rentre même plus en ligne de compte, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent plus rien, ils vivent par le truchement de ces petites photos qui sont en surtouchées, ce qui fait que tous les gens ont la même tête. C'est l'esthétique de Madame Kardashian, où toutes les femmes maintenant ont des trucs, et puis les gens ils se mettent les bouches en cul de poule. Pourquoi est-ce que quand on se prend en photo, on est juste sur comme ça? C'est très très bizarre. C'est-à-dire le mimétisme est terrible, parce que des gens qui n'ont absolument aucun lien physique font la même bobine, tout ça pour ressembler à des personnages totalement qui sont déjà imaginaires et fictifs et qui se sont créés des identités et de communautés de followers, comme on dit maintenant. Enfin, on vit vraiment dans un monde qui est un peu cul par-dessus tête. Le visiter un endroit, découvrir un endroit, déjà le besoin de photographier, et une fois de plus, c'est la disparition de la mémoire, c'est cette obsession de mettre ça dans un petit disque dur qu'on a dans la poche, alors que moi, alors, Dieu sait si je prends parfois des photos et je fais des albums d'ailleurs, mais comme des journaux intimes, c'est encore autre chose, mais aller dans un endroit et juste profiter, regarder, se remplir les mirettes, les yeux, le regard, c'est quand même, tout vient de là. Donc il n'y a plus de regard, c'est la disparition du regard, et ça c'est vraiment le mauvais goût de notre époque aussi.
Ouais, et c'est vrai que vous évoquez aussi les SMS, par exemple les fâcheux disques que le téléphone a détruit la tradition épistolaire et que les textos ont grévé la langue française. Pas forcément, il s'agit juste d'un médium différent. Ce qui est avachi, c'est la curiosité, donc c'est l'effort, c'est le chemin qu'on va parcourir. Oui. D'ailleurs, votre livre, Nicolas Destiendorf, par des résonances, des ricochets, vous nous obligez à nous souvenir.
De toute façon, c'est un livre qui est fondé beaucoup sur la mémoire, comme souvent cette collection. Voilà, moi je suis né en 74, donc c'est vraiment une sorte de dictionnaire amoureux des années 75-90, donc globalement des années Giscard et Mitterrand, ce qui étaient des années en fait de assez éruptive, libératoire, qui partait en tous les sens avec des combats très forts, mais où il y avait quand même une espèce d'équilibre des oppositions, c'est-à-dire que mais quand même quand on voyait des choses à la télé, je veux dire, il y avait du voilà, c'était pas des réquisitoires, c'était à chaque fois les gens savaient s'exprimer, savaient s'engueuler, c'était l'époque de Michel Pollack, c'était même l'époque du fameux débat Tapie-Le Pen, enfin voilà, là il y avait du, alors c'était du chaud, mais ça avait du, je sais pas, ça avait une certaine fougue, même si c'était très fabriqué. Et puis juste la curiosité, quelque chose qui disparaît, parce que tout nous vient tellement facilement. Maintenant, on dit ah, je me souviens plus de ce truc, on sort le téléphone, on cherche au Google. Ouais. Et je le fais aussi. Et c'est vrai que c'est formidable, c'est très efficace. Avant, il fallait ouvrir le dictionnaire. J'ai des enfants qui me disent, papa, ça veut dire quoi ce mot? Regarde sur Google. J'écoute. Va en bas. Teint à la rousse, tu verras bien. Et puis après, si ça te convient pas, on regarde sur Wikipédia. Mais bon, je le fais moi-même. Et c'est vrai que on gagne un temps formidable. Mais il faut, et c'est-à-dire que je vois même quand il y a encore 15 ans, ou peut-être 20 ans, je connaissais je pense, une cinquantaine, enfin, on connaissait tous une centaine de numéros de téléphone par cœur. Ouais. Je serais incapable de dire les numéros de téléphone de mes 10 personnes les plus proches, y compris le téléphone de mon fils, je ne sais pas. J'appuie sur un bouton, il y a son prénom. Et en fait, ça, tout à coup, comme on dématérialise absolument tout, on dématérialise la musique, on dématérialise les films, il n'y a plus de support, il n'y a plus de... Voilà, c'est la disparition du regard et puis du toucher. C'est... Les sens, en fait, disparaissent peu à peu. La vue, le toucher... Le goût, voilà, on arrive aussi à une uniformisation des goûts, qui est une chose auquel on a assisté, par exemple, dans le, je prends toujours l'exemple des légumes. Je crois qu'au début du XXe siècle, il y avait, je crois, 3000 variétés de pommes. Maintenant, je crois qu'il y en a 30 ou 35. Ça, c'est la grande distribution, parce que les gens étaient paumés et parce que, sous prétexte qu'une pomme avait un peu une drôle de gueule, elle n'était pas vendable. Donc, bon, là, une fois de plus, je parle encore comme un vieux con, je me rends compte. Mais voilà, c'est toujours cette histoire de nuance, de variété, de multiplicité qui fait qu'on, voilà, et puis, voilà, cette curiosité qui est en berne où les gens ne se donnent plus la peine d'essayer de creuser ou de voir ce qui peut se cacher derrière un mur.
Oui, et le présentiel est artificiel, c'est un selfie, c'est-à-dire c'est par écran interposé. Alors, il y a des choses très drôles, moi j'ai trouvé sur, par exemple, les boutiques de stations-service. En France, le brassage social est une chimère. On guigne une égalité à tout craint, une mixité permanente, un métissage de culture et des sensibilités, mais chacun garde son précaré. Ce n'est pas navrant, c'est humain. Voilà, donc vous soulignez, c'est vrai, c'est un incontournable. Tout le monde a été dans une boutique de station-service avec le même kitsch, finalement, les mêmes sandwichs triangulaires, etc.
Mais c'est très mystérieux, puisque comme je dis, c'est l'un des derniers lieux où on peut croiser des gens de tous horizons, parce que... Que l'on vienne de quelques milieux, que l'on vienne, ou presque de quelques pays que l'on vienne, on prend forcément un moment ou l'autre l'autoroute, et à forcément un moment on a faim, on a besoin de prendre de l'essence, on a besoin de faire pipi. Et donc, on croise des gens qu'on ne croise absolument nulle part ailleurs. Parce que vous me direz dans les gares, mais ça dépend dans quelle direction. Enfin, il y a une espèce de... Parce que c'est des pauses dans des no man's land, dans les autoroutes, c'est des no man's land, c'est des choses que tout le monde emprunte, et là, il y a quelque chose de, c'est presque un peu de la science-fiction, c'est-à-dire que, comme je dis, on retrouve des livres qu'on ne trouve nulle part ailleurs, on trouve encore des musiques cassettes, ce genre de choses, et je ne sais pas pourquoi, c'est une photographie d'une époque presque révolue, je dis, on trouve des guides de la faune et de la flore locale, ou des cartes de régions qui portent plus les noms des régions, mais ils ont laissé encore avec, ça s'appelle encore Picardie ou Champagne-Ardenne. Enfin, donc il y a un côté assez... En fait, moi, mon fantasme absolu, c'est le voyage dans le temps. Ça, c'est un thème que j'ai développé dans des romans et tout ça. Et pour moi, ce serait le rêve de me balader dans le passé. Et à chaque fois que je suis dans une boutique de station-service, j'ai l'impression d'avoir un pied dans une sorte d'Atlantide.
Ouais. Et un côté Marcel Aimé aussi. Vous aimez Marcel Aimé, je suppose.
Ah, oui, Marcel Aimé est un de mes écrivains favoris, absolument. Ah, ben, il y a un côté Passe-Muraille. Il y a un côté, on se... Voilà. Et Marcel Aimé fait partie justement de ces grands, grands écrivains qui ont, moins maintenant, mais qui ont été longtemps un petit peu regardés de haut parce qu'il racontait des histoires, parce qu'il racontait des contes, parce qu'il écrivait aussi pour les enfants, alors que c'est un des plus grands moralistes de son époque. Il a dit des choses terribles sur la psyché française. Je veux dire, on n'a jamais autant dit de choses sur l'ambiguïté des Français pendant l'occupation qu'avec le chemin des écoliers ou surtout Uranus, où il montre que c'était blanc bonnet et bolet blanc, qu'ils étaient tous des pourris. Donc il a une vision de l'humanité absolument terrible, mais c'est fait avec une délicatesse et un flegme qui lui était propre. Et voilà. Et puis Marcel Aimé, il avait le goût du fantastique aussi. Il avait le goût de l'imagination débordante. Et c'est des textes qui sont d'un point de vue formel absolument parfaits, qui ont été écrits à une époque pourtant déjà assez lointaine. Et ça se lit, mais comme on boit un bon.
Oui, exactement. Et alors le plastique. Alors ça, on peut pas y échapper parce qu'on parle des années 70, l'ère du plastique. Hein. Les plantes vertes de la salle d'attente. Ça, j'adorais. N'en déplaise aux écologistes, la nature offre parfois des métastases bien inutiles.
J'ai toujours trouvé ça très mystérieux, les salles d'attente. Pourquoi est-ce qu'elles sont toujours aussi laides? Dans ce cas-là, pourquoi on met une plante verte? Autant, parce que souvent, ça prend la place d'un siège, et il y a toujours trop de monde, et il y a toujours une personne qui est debout à côté de la plante verte. Alors, on enlèverait la plante verte, on mettrait le siège, et ben, tout le monde pourrait s'asseoir. Voilà. C'est tout bête.
C'est bête, hein. Et alors, le botox, alors ça, l'obsession du ravaudage corporel est une métastase, de ce Roger, fantasme faux. Tient la jeunesse retrouvée. Et après, vous dites, toutes ces femmes et ces hommes finissent par posséder les mêmes traits, car ils sont redessinés par les mêmes outils, gonflés par les mêmes substances, repensés par les mêmes techniques.
Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayé et qui est de pire en pire. Ça, c'est un virus qui nous vient des États-Unis et surtout de la Californie. C'est c'est venu d'abord par les personnalités publiques, des comédiens, des chanteurs. Il y a un moment où ils n'assument plus l'idée. Bah, c'est d'ailleurs puisqu'on retire le mot vieux de certains livres, comme si la vieillesse, comme si le fait que le corps prenne de l'âge était soit une malédiction, surtout ça devait être un non-dit. Donc ils sont dans la négation de toute forme de vieillissement, alors que c'est juste le travail du temps. C'est très beau le temps. Je veux dire, Proust en a fait quand même pas mal de jolies lignes. Ça fait partie le vieillissement, la maladie, la mort, ça fait partie de la vie. De toute façon, ça ne sert à rien de la mettre de côté. Ça va nous arriver en pleine gueule. Donc, et alors, ce truc de vouloir absolument conserver une jeunesse artificielle, et c'est tellement évident quand tout à coup ces dames se mettent à, ou ces messieurs, hein, pour le coup vraiment c'est les deux, se mettent à se ressembler, à avoir les mêmes pommettes bien lissées, à avoir la même bouche un peu lipue, à avoir les mêmes yeux un petit peu écartés, et c'est d'une tristesse parce que souvent c'est le visage, et puis quand on voit les mains, les mains, on lâche du corps, alors que le visage c'est ce besoin de, et surtout, et en plus ils se ressemblent tous. Alors ce qui est beau avec un visage, surtout un vieux visage, c'est que ça, c'est comme un arbre, c'est que c'est creusé, c'est raviné, c'est de l'écorce, c'est magnifique. Alors que quand on voit certaines dames complètement tirées, on se dit mais et pourquoi, et surtout à quoi ça leur sert? Je crois que ça coûte très cher. Ensuite, ça se distend, c'est très très mauvais pour la santé. C'est totalement antinaturel. Voilà, moi j'ai un problème avec les choses qui sont une sorte de dénaturation du corps. Le corps, c'est notre cadeau et c'est notre malédiction, mais c'est ce qui nous lie tous. On est tous soumis à cette loi. Donc pourquoi vouloir la dévier alors que de toute façon ça sert à rien. Et parfois aussi, on voit certaines, en l'occurrence certaines comédiennes qui étaient absolument ravissantes et qui se sont littéralement défigurées sans qu'on comprenne pourquoi. Et en plus avec le travail du temps là, ça devient vraiment terrible. Et je dis, c'est juste du gâchis. Je sais pas ce qui se passe dans la tête ou dans leur entourage pour qu'on les pousse à faire ça.
Ouais. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Ce que vous aimez, c'est l'originalité et la singularité, hein, Nicolas Destiendorf. Alors, les Miss France, voilà ce que vous écrivez. Quiconque regarde Miss France s'enfonce si loin dans l'inanité, si profond dans les catacombes du néant, qu'il reste effaré parce qu'il s'est infligé pendant 3 heures. Cette élection est la preuve que les siècles de libération de la femme n'ont pas servi à grand chose, car c'est ici le triomphe de la potiche, le panthéon des cruches, un spectacle à la fois sexiste et désexué, fondé sur l'attrait physique et probablement dénué de toute sensualité.
Bah, je crois que j'ai tout dit. Ça reste très mystérieux, parce que ça reste très populaire. Et quand même, dans nos époques où justement on parle de combat féministe, on dit enfin le féminisme arrive à ses fins, qu'un tel spectacle existe encore, parce que c'est comme c'est des femmes réduites à leur pure enveloppe corporelle, en plus habillées toutes pareilles, donc d'une uniformité et en plus quand on voit souvent des reportages sur elles. Chez elles, en famille, au petit déjeuner, elles sont absolument ravissantes, au naturel. Et là, elles sont mais ripollinées, maquillées. On dirait presque qu'on les a botoxées exprès. Et puis, en fait, on les juge uniquement sur leur façon de marcher. Enfin, c'est exactement comme aller voir comme aller au commissariat agricole pour voir les pouliches qui paradent, qui paradent à l'étable, si je puis dire. Et le paradoxe, c'est qu'en plus, c'est que c'est un public essentiellement féminin qui regarde les Miss France. Mais oui, je connais pas de messieurs qui regardent ça.
J'ai appris. À propos de bovins, l'anneau dans le nez. Alors, il n'y a pas piercing, hein, mais il y a l'anneau dans le nez. Singulière émanence bovine, hommage décalé à la vache qui rit ou clin d'œil à l'humanité servile.
Bah, c'est-à-dire, l'anneau dans le nez, comme ça, devant le septum annelé, je n'ai jamais compris parce que peut-être j'ai trop vu d'images effectivement de la vache qui rit ou de Clarabelle. Moi, j'ai toujours envie d'accrocher une petite chaîne et puis d'accrocher la chaîne à un anneau dans le mur. Je ne comprends pas. Le piercing. Bon, ça c'est un goût personnel. J'ai jamais eu une passion, mais quand c'est un peu délicat, quand c'est discret, une fois de plus, moi j'aime l'intégrité du corps. Je suis pas un passionné des tatouages. J'ai un frère qui est recouvert de tatouages qui sont parfois très beaux, mais il y a toujours ce truc où on se dit oui, mais ça va rester. C'est là ouais. Ce qui est charmant à 15 ans, oui, il est très beau, il a 30 ans, mais dans 50 ans, disons l'encre ou le homard, ben il aura l'air d'une vieille crevette molle. Donc
je mets toujours les choses en perspective, je vois toujours un peu plus loin que ça, une fois de plus, c'est cette tyrannie de l'éphémère où on pense ici, maintenant, je veux tout, tout de suite. Il faut un tout petit peu mettre en perspective et voir, se dire, tiens, qu'est-ce que ça donnera dans 50 ans ?
Ouais, exactement. Et après, on a pensé, les terrasses de restaurants, c'est vrai que les terrasses, elles ont fleuri avec le Covid. Hein. Les Français ont le cul entre deux chaises, pas assez rigoureux pour être des Saxons, pas assez fantaxes pour être des Latins. Ils oscillent entre le Nord et le Sud, donc d'où l'usage d'ailleurs de la terrasse, fameuse terrasse. C'est vrai que pour manger en terrasse, c'est finalement pas très agréable.
Bah, ça dépend. Bah, c'est bon, le Covid, ça a changé les choses et ça, on était bien obligés. Voilà, ça, c'était un texte que j'avais écrit avant le Covid, et j'étais bien content quand les restaurants ont rouvert de pouvoir me mettre en terrasse, très franchement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué, parce que j'aime beaucoup aller au restaurant. Mais ça, c'est une obsession très française. Dès qu'il y a un vague coucher de soleil, enfin, un vague rayon de soleil, même si on grelotte, les gens vont s'entasser les uns contre les autres. Ils mangent comme ça tout. Voilà, moi, j'aime bien avoir de la place. J'aime pas l'entassement. Je veux dire, il y a suffisamment de, voilà, on est suffisamment entassé dans plein de choses, dans le métro le matin, dans l'autobus, dans l'horaire. Si en plus, il faut aller s'entasser dans les restaurants, sous prétexte que, comme les autres, il faut être en terrasse, c'est le côté obligatoire de la terrasse. Dire, ah ben, il fait bon, on se met en terrasse. Non, on se met dedans, il y a de la place, on peut s'entendre parler, au contraire, on peut se déployer, on peut s'étaler. Voilà, c'est le côté sardine qui me hérisse un peu. Et surtout, c'est comme Bête du Seigneur, le côté obligatoire.
Voilà, ouais, c'est le côté obligatoire. Alors, ce que je partage aussi, le bonnet. Alors, le bonnet, ça non plus, je comprends pas trop, moi non plus. De la raideur du temps passé est née la mollesse actuelle. Parmi les accessoires les plus mystérieux, je reste perplexe devant le bonnet.
Ben, je comprends pas, parce que alors le bonnet, quand il fait froid, ou surtout quand il neige, c'est très agréable, mais il y a des gens qui portent des bonnets toute l'année, même en plein été, ils sont en petit t-shirt et en short ou en basket, et avec un bonnet, ça tient chaud, ça ne protège pas vraiment. C'est un mystère, mais je crois que c'est un signe distinctif. C'est comme porter une barbe, voilà, je trouve ça juste pas très très joli. Les gens tous, ça leur donne des têtes de spermatozoïdes. C'est pas, alors qu'à la grande, quand on voit les films des années 50-60, l'époque du chapeau avait un peu plus de. Bon, ça c'est mon côté nostalgique une fois de plus, mais. Le chapeau est une chose qui a disparu. Bon, alors il y a la casquette américaine aussi, si possible à l'envers. Enfin, je dis ça, moi je porte ça pendant l'été, j'avoue, ça c'est mon mauvais goût une fois de plus. Mais le bonnet, mais le truc, j'ai un petit garçon de 11 ans maintenant, on lui a donné un bonnet, il le porte tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi il le porte dans la maison? J'ai dit, pourquoi tu le portes? Parce que je suis bien. Alors j'imagine que ça doit être quelque chose de rassurant, ça doit être quelque chose peut-être d'un petit peu régressif, comme le bonnet de nuit, ou c'est comme si on a un petit bout de, j'allais dire, de couette ou de sac de couchage sur la tête. Il faudra peut-être que j'essaye.
C'est la mode des Schtroumpfs.
C'est ça, absolument. C'est ça.
Une remarque. Le vin nature. Alors moi, c'est vrai que je suis pas fan non plus. Désormais, des vins interchangeables, sans typicité, sans nuance, dont la dégustation à l'aveugle rend, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est le vin bio, le vin.
Alors, une fois de plus, ce qui m'agace, c'est le côté obligatoire. C'est la dictature du vin nature. Quand ça a commencé il y a 20 ans, moi, j'ai découvert ça avec une vraie passion, parce qu'il y avait des gens qui étaient des artistes de la divinification, qui nous ont fait découvrir des goûts, qui nous ont fait retrouver le goût d'origine du fruit. C'est quand même vachement important, qui s'était un peu perdu avec une sorte de généralisation d'arômes qu'on rajoutait, trop de soufre et tout ça. Mais ensuite, c'est devenu, en fait, ce qui était une révolution est devenu un nouveau conformisme. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que il y avait eu des grands artistes, genre comme Marcel Lapierre et tout ça, qui faisaient des vins magnifiques et qui étaient en plus des vins pas chers, des vins de copains comme on dit, des vins de soif, des vins de camarades. Et ensuite, c'est devenu une nouvelle uniformisation où maintenant le moindre type, en plus, souvent c'est des anciens citadins qui décident de faire leur retour à la terre, ce qui est très bien, mais ils achètent trois arpents en Pays de Loire, ils vont chier dans leur vigne la nuit en regardant la lune, et puis ensuite ils font un vin qui n'a généralement absolument aucun goût parce qu'ils n'y connaissent rien, c'est pas leur métier. Et ensuite, ils mettent des bouteilles avec des jeux de mots débiles et des dessins affreux. Ils vendent ça une fortune et ça se coûte une fortune dans Paris. Et les gens vous disent, ah ouais, ça c'est formidable, ça c'est mon pote Jean-Luc qui fait ça. Et voilà. Et ça crée une espèce de truc parallèle et surtout ça crée une nouvelle forme presque de terrorisme, j'allais dire intellectuel, où il y a une jeune génération qui n'a jamais bu autre chose que ces vins-là, qui est née à l'âge du vin nature et qui part du principe que il n'y a que ça. C'est comme tout à coup, les gens diraient, ah, moi, le roman, je n'aime que le nouveau roman. Non, on peut aimer le nouveau roman, mais on peut aimer aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est devenu
un dogme.
C'est devenu un nouveau dogme. Et c'est, voilà, c'est une fois de plus. Moi, c'est toujours le côté obligatoire des choses qui me dérange.
Oui, ben, vous faites bien. Vous n'êtes pas le seul. Alors, il y a toute une partie sur, des sortes de spiritualité, des charlatans, la revue Planète que j'ai connue et qui est assez, moi, j'aime bien. Henri Amoroso, par exemple, c'est un personnage. Vous dites, Henri Amoroso offre l'étonnant spectacle d'un fossile vivant. Mais c'est vrai, il y a Robert Charroux, il y a toutes. C'est tout des personnages sur pseudo-spiritualité, mais qu'on aime bien aussi. C'est attachant, enfin.
Une fois de plus, c'était de l'imaginaire. C'est-à-dire, toute la génération. Moi, j'avais lu avec passion Le Matin des Magiciens, longtemps après sa sortie, hein. Mais c'était ma grand-mère, je crois, qui m'a mis ça dans les mains, au début des années 90. Et puis j'avais récupéré des vieux numéros de Planète. C'était un moment où tout à coup l'imaginaire avait droit de citer dans les univers scientifiques et ça a été une vraie libération, je crois, intellectuelle dans les années 60 où tout à coup on s'est mis à regarder une fois de plus la face B de la réalité, c'est-à-dire que tout à coup on s'est dit, et si les extraterrestres étaient possibles, et si il y avait eu des civilisations mystérieuses avant nous, et surtout, personne n'était dupe de tout ça. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'était pas, pour le coup, des dictateurs, des terroristes. C'était des gens qui s'amusaient à dire pourquoi pas. Et moi, j'adore de me dire pourquoi pas. Ou de me dire qui c'est. Et c'était pour moi des bases romanesques extraordinaires. Robert Charroux, qui était ce type qui faisait des livres chez Robert Laffont, dont il vendait à chaque fois 500 000 exemplaires. Histoire inconnue des hommes, le livre des mondes oubliés, ce genre de choses. Où, en fait, il se faisait payer des vacances par son éditeur à l'œil dans le monde entier. Il faisait des photos de lui avec sa femme devant une vague colline dans je ne sais quelle forêt perdue en disant, mais c'est une pyramide maya et j'ai vu la même dans la vallée de Chevreuse, ce genre de choses. Et il mettait les photos l'une à côté de l'autre. Il faisait un grand chapitre totalement délirant en disant que de toute façon, il a aussi trouvé le vestige d'une soucoupe volante. Mais ses livres se lisent avec délice au second degré une fois de plus. Mais il y avait un côté où, moi, ça stimule mon imaginaire. J'aime bien l'idée que quelqu'un ait été inventer des choses. C'est comme toute l'histoire de Rennes le Château, qui à l'origine est quand même le prieuré de Sion, toutes ces choses-là qui ont abouti à l'écriture du Da Vinci Code. À l'origine, c'est un canular mis en place par deux messieurs dans les années 60 qui ont fait des fausses preuves d'une espèce de conspiration depuis toujours, qui ont été mettre des faux documents à la Bibliothèque nationale. Moi, pour moi, les gens qui font ça, c'est des vrais artistes. J'adore ce sorte de terrorisme potache, d'aller fabriquer une fois de plus du vrai avec du faux avec du vrai, pour créer le doute. Moi, j'adore le doute, c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité établie, on se demande si c'est du lard ou du cochon, et ça crée c'est très stimulant, c'est de se demander et si c'était possible.
Oui, mais ça, on vous traiterait de complotiste, c'est le mot dès qu'on commence à douter. Mais c'est vrai que vous parlez, par exemple, de Gérard de Sède ou de Marc Dem, ça je m'en souviens aussi. Donc c'est tout un imaginaire, et les fameuses revues Planète d'ailleurs, il y a aussi toute une maquette.
C'était très moderne, c'était les premiers. Il bossait avec des artistes, il bossait avec des maquettistes, il bossait avec on appelait pas ça encore des designers, c'était très culotté. Et Le Matin des Magiciens a eu un succès colossal et ça a donné lieu, d'ailleurs les fameux guides noirs de chez Chou sont nés de cette mouvance là et c'est tout ce qui en est resté à la fin. Il y avait deux collections, il y avait la collection les énigmes de l'univers chez Robert Laffont, c'était des livres noirs avec livres de Robert Emblin, de tout ça, et ou La Vie après la Vie, et la collection J'ai lu rouge, l'aventure mystérieuse. Ça, je les adore quand je les trouve chez les bouquinistes. J'en prends toujours un avec la lune clé de la Bible, l'Atlantide et le règne des géants, loup-garou et vampire. Et j'adore ça. Moi, moi qui ai toujours aimé les films d'horreur et l'univers fantastique, c'était comme si tout à coup on rendait les choses possibles. On se disait, oui, mais les loups-garous, ça a peut-être existé. Les vampires, c'est peut-être possible. Et j'adore, une fois de plus, la possibilité que l'imaginaire puisse s'incarner dans le réel.
Ouais. Vous êtes bibliophile ?
Bibliophile ? Non, je suis... j'achète beaucoup de livres, mais je suis pas forcément attaché aux livres. Il y a quelques années, pour des raisons purement financières, j'ai vendu 80% de la bibliothèque sans souffrance. C'est-à-dire que je suis pas attaché à l'objet livre. Je l'ai, mais j'avais beaucoup de choses. Et maintenant, je veux dire, j'ai un Kindle. Et par exemple, j'ai acheté tous les classiques pour 2 €. Vous pouvez avoir l'intégralité de Victor Hugo pour 2 € l'intégralité d'Alexandre Dumas. Mais bon, je veux dire, ça sauve des arbres, hein. C'est déjà ça. Et j'ai un petit truc dans la poche et j'ai toute la fine fleur de la littérature française qui compte, c'est-à-dire les classiques, et je me dis que après tout, si ça peut être mon petit geste écologique, c'est déjà ça.
Bon, on va faire une petite pause musicale.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Donc Nicolas Destiendorf, nous parlons toujours de votre dictionnaire amoureux du mauvais goût qui vient de paraître aux éditions Plomb. Alors il y a un personnage, moi, que j'aime personnellement, j'aime beaucoup et qui est disparu prématurément, c'est Jean-Yves Lafesse.
Moi, la fesse, ça fait partie de certains de mes plus beaux fous rires. Je veux dire, j'avais découvert par ses blagues au téléphone. Et alors, pour moi, c'est un poète. C'était un vrai. C'est un de nos derniers surréalistes, parce que c'était vraiment. Moi, j'avais découvert la blague au téléphone par Francis Blanche, qui est un de mes dieux sur terre. Mais quand même, quand j'étais enfant, mon père me faisait écouter ça, et je découvre la fesse à l'adolescence. Et je me dis, mais comment ce type, un tel génie, a pu arriver? Quand il fait croire qu'il est le commandant Cousteau dans une moule géante, ou quand il appelle en expliquant qu'il a un caniche champion de trampoline, enfin à chaque fois, et ça n'est jamais méchant, c'est d'une poésie extraordinaire, c'est d'une folie furieuse, et il garde un sérieux. Et puis alors, ses blagues dans la rue, moi, me faisaient pleurer de rire, et je les regarde régulièrement parce qu'on trouve tout sur internet, et je montre ça à mes enfants, et on se fait des séances. Il dit, papa, on fait une séance La Fesse, et on se regarde du La Fesse pendant une heure. Et c'est le vrai rire gaulois potache, et avec une poésie vraiment surréaliste, en fait assez littéraire. Je l'ai jamais rencontré là, en fait on habitait dans le même quartier parfois, ouais. Il y a des années, je le voyais dans le 9e arrondissement, et j'osais pas lui parler. Et vraiment, quand j'étais très très peiné quand j'ai appris qu'il était mort. Il est mort juste après le confinement. Puis il a eu une maladie terrible à la fin de sa vie. Il était très diminué. Moi, j'aurais voulu le connaître, parce que en plus j'ai certains amis qui le connaissaient, qui m'ont dit que le type était absolument délicieux en plus. Et quand on est aussi drôle que ça. Et puis en plus il y avait ce côté camarade. Il faisait ça avec son frère, ses potes. C'était une bande de copains qui ont poussé leur délire et leur cinglerie, en fait, créative et artistique, au point d'en faire un genre esthétique en soi.
Ouais, fameux marché de la rue Claire d'ailleurs où il allait. Vous dites Jean-Yves Lambert, 1957-2021, aurait trouvé son pseudonyme avec après avoir marqué un but au football au moyen de la fesse gauche. Donc déjà là, on est dans l'ambiance.
C'est merveilleux. Et puis toute cette série de ces séries de, je crois que c'est des cassettes vidéo puis de DVD, c'était les yeux dans la fesse, le meilleur de la fesse. Enfin, voilà, ça donnait lieu à des jeux de mots qui moi me font beaucoup rire parce que ça c'est du bon potage. Et puis surtout c'était malgré tout il a fait ça pendant presque 30 ans. Tout en arrivant à se renouveler, à être à chaque fois drôle et à inventer des situations de vie absolues. En fait, il a créé un monde parallèle. C'est ça qui me fascinait.
Et c'est vrai, il y avait une poésie funambulesque dans cet univers hors du temps. Qu'il fût au téléphone ou dans la rue, cet homme faisait preuve d'un sens de l'improvisation qui confinait au génie. Et c'est en cela qu'il était poète.
Ben voilà, une fois de plus, tout est dit.
Tout est dit. Paganini du canular, Mozart de l'imposture, Jean-Yves Lafesse était notre dernier surréaliste. C'est vrai qu'on manque un peu de surréalisme actuellement.
C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est parce que l'humour est très corseté, la poésie et en plus il avait un sens du mot, c'est-à-dire quand je vois maintenant montrer à la jeune génération des sketchs de Raymond Devos, ils comprennent pas. Je veux dire même des comiques comme il s'appelle Jean-Jacques Vanier, qui sont des gens qui ont un petit public, mais une fois de plus la subtilité du langage, quand on voit les comiques actuels, il y en a qui sont très drôles, mais ils sont juste dans la tranche de vie, ils nous racontent leur petit quotidien, leurs problèmes, alors que juste jongler. Et si, il y a peut-être Stéphane de Groot qui est un des seuls, et ça parce qu'ils sont belges et les Belges ont une folie. D'ailleurs, je parle beaucoup des Belges dans ma...
Ouais, c'est vrai.
Voilà, des gens comme Noël Godin, comme ces gens-là, ou des auteurs comme Jean Rey.
L'Entartreur.
Ah, L'Entartreur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça, être arrivé à créer ce qu'il appelle le terrorisme pâtissier, c'est un homme d'une grande culture. Il avait fait cette anthologie de la subversion carabinée à l'âge d'homme, qui est un monument un peu comme l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, mais des années plus tard. Et puis, être arrivé, comme ça, à envoyer des tartes à la crème à Bill Gates, à Bernard-Henri Lévy, à PPDA, à plein de gens, à Marguerite Duras, je crois, à plein de gens, je veux dire, en organisant ces choses comme une véritable guérilla. Voilà, là, on est au-delà du second degré. Une fois de plus aussi, on est dans la poésie.
Ouais. Et la légèreté, du bon usage de la légèreté, Nicolas Destiendorf. Au vrai, la légèreté n'est-elle pas l'autre nom de la curiosité? C'est vrai que nous vivons dans une époque assez pesante. Finalement, les gens sont assez peu curieux. Il y a comme ça des dogmes, des pesanteurs.
Puis la légèreté, c'est le pouvoir se permettre d'aller d'un sujet à un autre, de papillonner. L'éclectisme, pour moi, c'est la base de tout. C'est ce que je pratique et dans ma vie et dans mes livres. J'ai plein de centres d'intérêt. Et les gens me disent, mais comment tu peux faire aussi bien un thriller, puis une biographie de Offenbach, puis un livre sur Marthe Richard, puis un dictionnaire. Je dis, oui, ben, je suis comme ça. Ça s'appelle de l'enthousiasme, ça s'appelle de la curiosité. Et le goût de, voilà, un peu funambulesque, d'aller d'un sujet à un autre. Non pas par, mais tout. Enfin, avec un vrai esprit de sérieux aussi. C'est-à-dire que c'est pas du, je ne bâcle pas les choses, mais quand vous êtes trop polymorphe, les gens vous regardent un peu de travers, ils comprennent pas. Les gens disent, mais tu fais quoi, toi? T'es qui, en fait? On comprend pas. T'as ce nom bizarre. Tu t'habilles de façon étrange. Voilà. Ils ont du mal à me mettre dans une case particulière, dans un clapier. Et je dis, oui, mais enfin, heureusement que nous ne sommes pas tous des monolithes. Enfin, je veux dire, et en plus, chacun a ses univers, ses parts d'ombre. Mais quand tout à coup ça rentre dans un domaine de création ou un domaine artistique, il faut vraiment obéir à une seule règle. Et c'est vraiment pas mon cas.
Bon. Mais c'est vrai, la légèreté, c'est le rire qu'on dit politesse du désespoir, une réponse joyeuse aux maux du monde, la lucidité drapée dans un sourire, ce sont les tourbillons tragiques de la règle du jeu de Renoir. Donc c'est vrai, mais il y a cette légèreté, mais derrière il y a toujours une petite mélancolie, une petite nostalgie. Comment vous écrivez, Nicolas Destiendorf? Comment vous arrivez à passer de la fiction à l'essai, de votre univers, ou c'est toujours, j'ai l'impression, le même univers?
Bah, en fait, c'est le même univers comme tout écrivain, c'est le même univers décliné sous des c'est toujours la même chose, thème, variation, c'est toujours ce principe de la nuance et du synonyme, c'est un même univers décliné dans plein de cadres différents, et c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui est excitant. Mais bon, tout ça sort de la même tête, donc voilà, ce n'est pas fabriqué, c'est comme le l'exercice de style de Raymond Queneau, c'est-à-dire c'est thème, variation, et c'est ça qui rend je prends la même matière. et puis je l'adopte différemment, mais c'est comme un piano. Vous avez quelques touches, c'est comme les notes de musique ou les lettres de l'alphabet. Elles sont là, on les recompose, on fait du Tetris, et à chaque fois ça donne une figure différente, et c'est ça ce qui fait la richesse de toute forme de création.
Pour ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, comment vous avez procédé? Vous avez fait d'abord votre liste avec...
Alors j'ai vraiment fait ça tout seul. Ouais. J'ai fait ma liste. J'avais déjà une partie des entrées que j'avais développées dans ce petit livre chez Michel Lafon, mais voilà, dont j'ai gardé parfois la trame et en même temps je les ai gonflées. Et surtout, l'important c'était de parler de moi, c'est-à-dire pourquoi je choisissais tel sujet. Et en fait, je me suis mis devant ma bibliothèque, devant mes DVD, devant ma bibliothèque musicale et tout ça. Et je dis, je veux parler de ça, parce que c'est quand même très dans un domaine très culturel. Et puis il y avait des petites choses du quotidien qui m'amusaient, des petits détails que je pointe, que je brocarde ou que je défends. Et puis c'est venu assez naturellement. Et puis j'ai creusé aussi dans mes souvenirs. J'ai retrouvé certains articles que j'avais écrits parfois il y a très longtemps, que j'ai gardés, que j'ai retaillés. C'est un patchwork, ce genre de livre. Tout ne s'est pas fait in extenso. Puis il y avait des choses que j'avais même oublié, je me suis dit, tiens, ça, je devrais le mettre, ça sonnait bien, et j'étais content de d'exhumer certains textes que j'avais pu faire il y a longtemps. J'ai dit, qui avait totalement disparu, qui était paru dans je ne sais quel journal il y a 15 ans. Donc, je le reprends, je le relis, et j'ai harmonisé tout ça, bien entendu. Et c'est ça qui était amusant, tout comme trouver, faire des dessins, des illustrations, voilà. Enfin, c'est un vrai livre cohérent.
Les dessins, c'est de vous, non?
Alors, les dessins, il y a un dessinateur officiel de la collection qui s'appelle Alain Bouldouir, qui fait ça très bien depuis les 120 ou 130 numéros de Dictionnaire amoureux, mais ils étaient trop jolis. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on peut en rajouter certains? J'ai dit, je vais demander à mes enfants de choisir quelques entrées, et ils ont choisi le paix des entrées que choisissent traditionnellement les enfants, et ils m'ont fait des dessins charmants, et moi-même, je dessinais quand j'étais ado, et j'ai retrouvé dans des cahiers au loin des petits dessins, et ça m'amusait de les mettre dedans, c'est des choses qui étaient en marge de mes cahiers à l'époque où j'écrivais à la main. Voilà.
Marginalia.
Absolument, exactement.
Un autre personnage que j'ai bien aimé, quand on aime l'insolite, c'est Martin Monestier. Scribe de l'improbable, entomologiste de l'insolite, cet insatiable curieux a consacré une quinzaine de volumes aux sujets les plus embarrassants, les monstres, nains, etc., les saints, les suicides, les poils, c'est vrai.
Ça, Monestier, ça avait été. J'avais découvert ces livres il y a une vingtaine d'années quand j'étais critique littéraire, et c'était des gros albums au Cherche Midi. En fait, c'était un type qui est passionné par le fait divers depuis toujours, donc qui épluchait la presse et qui notait des faits étranges. C'était un collectionneur de faits étranges, comme faisait Jacques Berger d'ailleurs avant, qui avait créé Planète. Et Monestier, ensuite, il faisait des grands albums avec des photos et des textes sur. Il a fait une monographie sur le crachat, une histoire et bizarrerie sociale des excréments, un livre sur le cannibalisme, un livre sur les enfants assassins remarquables, tous les sujets limites. Et là, pour moi, un type qui arrivait à faire ça, je l'avais rencontré plusieurs fois, il était passionnant, absolument adorable. Et bon, c'était un homme qui vivait assez reclus, qui avait une personnalité assez étrange et un lectorat assez réduit, bien entendu. Mais pour moi, ça faisait partie de ces véritables poètes buissonniers qui vivaient en marge des goûts, des tendances et des options esthétiques de leur temps. Et j'espère qu'un jour, il est mort l'année dernière, il a été malade longtemps, et j'espère que ses livres sortiront, parce que c'est des sommes d'informations extraordinaires. Et une fois de plus, chaque chapitre, chaque page de ce livre est pour moi un début de roman.
Oui, c'est vrai. Alors les mots meubles, ça c'est mauvais goût, effectivement. Enfin, il y en a qui disent du coup, sans arrêt du coup, enfin bref.
Ah bah du coup, ça oui, effectivement, ça c'est une entrée très... Et effectivement, je le dis moi-même beaucoup, je me rends compte, mais ça, il y a toujours eu à chaque génération des mots qui... meubles, c'est-à-dire que c'est toujours mieux que de faire eux, mais... je viens de le dire, jusque dans les années 60, les gens disaient n'est-ce pas? Et vous regardez les interviews, par exemple, ce qui est très intéressant, il y a les fameuses interviews de Céline dans les années 50, quand il est à Meudon et que Louis Powell vient le voir, ou je sais plus qui était l'autre, je crois que c'est Dumayet, il dit n'est-ce pas? Mais c'est une ponctuation qui est un peu plus élégante et qui est un peu plus jolie que et que surtout ces adverbes, franchement, effectivement, et tout ça.
Ces temps-ci, effectivement, adverbe chéri des commentateurs, l'exhausteur de phrases est sans conteste du coup. Vidé de sa substance, il est le joker lexical qui rassure le locuteur, impliquant une conséquence des faits dans une cohérence, au mépris de toute logique. Donc c'est vrai qu'il y a, comme ça des mots à, soit à rallonge, c'est-à-dire, je sais pas, enfin, on a. Alors la nécro aussi, la nécrologie. Je crois que vous avez d'ailleurs écrit votre propre nécro.
C'est ça, en fait. C'est ce qui s'était passé. C'était un livre sorti il y a déjà pas mal de temps. C'était une sorte de compilation, en fait. C'était Jérôme Garcin qui avait lancé ce projet, où ils avaient demandé à toute une série d'écrivains d'écrire leur nécro. Et c'était très révélateur. C'est-à-dire que certains de mes amis qui commençaient en même temps avaient fait des nécros extrêmement sérieuses. Comme si vraiment il s'était pris au jeu. Et moi, évidemment, j'ai fait un truc totalement potache, expliquant que de toute façon qu'on avait retrouvé mon corps dans le coffre d'un cannibale allemand. Voilà.
Et voilà ce que vous écrivez d'ailleurs. Journaliste par hasard, écrivain par accident, mondain par goût, cet homme pressé, enfin vous dites, hein, et toujours il a rêvé mort savoureuse et à poil.
Voilà, ça c'est, j'ai toujours aimé crier à poil. Ça c'est mon côté potache. Quand les gens applaudissent et que les applaudissements se baissent, généralement je crie à poil et ça relance la joie de vivre. Voilà.
Alors autre mauvais goût, si on veut, c'est le nouveau roman. On vous dit cette désincarnation du sensible, ce refus du réel. Le nouveau roman l'a opéré bien avant les mots de 2020. Dénué et réussi de tout relief, inventé des personnages translucides aux gestes mécaniques.
Alors ça, c'est un de mes combats. Je m'y suis jamais fait. C'est-à-dire que je vois le côté exercice de style, je vois le côté formel intéressant, mais je préfère de loin le travail de l'Oulipo, le travail de Pérec, de tous ces gens-là, avec ces textes qui sont délibérément dénués de. Mais il n'y a pas d'imaginaire. On est juste dans le logarithme. D'ailleurs, beaucoup étaient des scientifiques. Et Rob Grier est un type, en plus, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'aime ses films, en fait. Mais ses romans me tombent des mains. J'ai jamais pu. Et tout comme j'ai eu du mal avec Duras. C'est-à-dire qu'à part certains textes, toute cette génération d'auteurs, voilà, de disons, neutralité absolue, d'appauvrissement volontaire du style, de l'intrigue, de la narration. Moi, j'aime qu'un roman m'emporte, tout simplement. Moi, j'aime les histoires. C'est pour ça. Et en plus, il y a autant de neutralité et de sécheresse chez Simenon, mais tellement plus d'humanité pour des romans écrits en fait exactement à la même époque.
Tout à fait. Les petites annonces. Alors ça, on se marre bien parce que vous en citez plein. Surtout les petites annonces du chasseur français.
C'était la grande époque. Les petites annonces, ça n'existe plus à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Mais à l'époque, si on voulait trouver quelqu'un, on mettait des petites annonces dans la presse et ça tenait lieu de votre agence patrimoniale. C'était avant les mythiques ou tous les Tinder et compagnie. Et ça avait un peu plus de classe. Surtout, les gens n'hésitaient pas à être d'une impudeur en disant qu'ils avaient des infirmités physiques et qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait la même infirmité. Et c'est fait avec une sorte de sincérité désarmante. Une fois de plus, on est dans la poésie, c'est-à-dire qu'il y a c'est comme des petits haïkus.
Alors il y en a une, par exemple, veuf désiré correspondre avec dame de 60 à 68 ans, en vue de mariage, éprouvant traire une vache. C'est paru dans l'Écho républicain de la Beauce et du Perche.
Bah non, mais c'est merveilleux, mais c'était la seule manière parfois des gens de se mettre en rapport. Il y a une partie des gens qui n'avaient pas encore le téléphone, et puis c'était un poste. On ne trouvait pas la presse. C'était un liant, la presse à l'époque, la presse papier. Donc c'était avant les réseaux sociaux. Et je ne crache pas sur les réseaux sociaux parce que ça me permet aussi de et Internet me permet d'avoir une vie beaucoup plus libre et de bouger beaucoup plus que si qu'à une époque plus révolue. Mais il y avait je trouve qu'il y a beaucoup de sel et de poésie et d'élégance dans ces petites phrases.
Alors le plagiat aussi, le plagiat, donc cette désopilante étude, on en vient à songer que la littérature n'est qu'une vaste banque d'emprunts au crédit illimité. Donc, vous parlez aussi de Jacques Attali, par exemple, on l'accusa de plagiat. Il se drapa dans sa dignité et rétorqua que l'éditeur avait oublié d'ajouter les guillemets. Ces fameux guillemets qu'on oublie très souvent.
Bon, ça c'était comme le dahu de l'édition, ou disons l'omerta. Oui, mais ça, le plagiat, en fait, on est toujours le plagié de quelqu'un et on a toujours, voilà, Molière est allé piquer les pièces de théâtre de l'Antiquité, La Fontaine a été piquée des Fables, mais ensuite on en refait une matière. Mais quand il s'agit de textes compilés, recompilés et souvent en fait faits par des documentalistes qui bossent pour des auteurs lesquels ne relisent même pas leurs textes, ça c'est autre chose. Alors je sais plus précisément quel était le cas d'Attali, mais ouais. Ils sont très nombreux, c'est des gens qui font énormément de choses toute la journée, qui n'ont pas le temps en fait même de rédiger leur bouquin, donc ils le font faire et qui ensuite en font la promotion avec verve et avec une illusion formidable. Ça, c'est des professionnels, pas de l'imposture, parce que ce sont les textes correspondent à ce qu'ils pensent, mais voilà, quand je vois le temps que ça prend d'écrire un bouquin, donc parfois je me dis franchement il charrie, mettre les références, mettre des guillemets, tout ça est une vaste hypocrisie.
Et donc après vous évoquez aussi la taxidermie, donc vous aimez bien les trophées, on voit quelques-uns chez vous, vous habitez pas loin de chez Dérol.
Absolument, en fait j'ai toujours aimé les animaux empaillés. Je ne suis pas chasseur, je n'ai jamais chassé, je serais incapable de tirer sur un animal vivant, mais j'allais chez Dérol quand j'étais petit et j'ai toujours collecté des trucs que je trouve dans des dépôts ventes, dans des brocantes. Voilà, il y a quelque chose de très dérangeant avec les animaux empaillés, et voilà, c'est toujours intéressant de voir la réaction des gens quand ils regardent. Il y a toujours un moment de crispation, et puis en même temps voilà, c'est une sorte de petite provocation douce.
Vous aimez aussi les cabinets de curiosité, on pourrait considérer que ce livre est une forme de cabinet de curiosité.
Totalement. Mais bon, c'est le principe aussi de cette collection. Mais celui-là encore plus, parce que ça va dans tous les coins, qu'il y a quelque chose d'esthétique et de kitsch. Qui dit cabinet de curiosité dit kitsch, pourtant qui est une notion postérieure à celle de cabinet de curiosité. Mais voilà, j'aime les petits objets un peu moches, mais qui ont des raisons d'être. Ma compagne, il y a un an, m'a trouvé en vente publique un petit objet qui est une, comment on appelle ça? C'est une cacahuète qui s'ouvre en deux et à l'intérieur, il y a deux Japonais en train de faire l'amour. Et en fait, ça venait de la collection d'objets érotiques de Michel Simon, alors, qui est un acteur que j'adorais. Et là, je trouve que ça, c'était un cadeau magnifique. Et voilà, ça fait partie de ce cabinet de curiosité.
Vous écrivez ici, là, dans le lieu qu'on est, ou ailleurs?
Essentiellement ici. J'ai un petit bureau ailleurs, mais où je vais moins, parce que je suis très agréablement ici. Tous mes livres sont là-bas. Mais j'écris le matin au réveil, j'écris en pyjama, donc je vais directement de mon lit à mon ordinateur. Et voilà, j'ai besoin d'avoir ce côté parenthèse, de ne pas savoir où exactement où je me trouve. Là, ici, on est à Paris, mais on est un peu comme si on n'était pas à Paris. Donc, j'ai besoin d'écrire dans le silence, surtout. Je suis pas parti j'ai des amis qui écrivent dans les cafés, ce genre de choses. Moi, je ne peux pas. Moi, dans ce cas, j'ai mon attention qui est attirée. Je peux pas m'empêcher de regarder ce qui se passe. Moi, j'ai besoin d'être concentré, tout simplement.
Il n'y a pas trop de livres.
Alors, parce que mes livres sont ailleurs, en fait. Ici, il y a des albums de photos, il y a les bandes dessinées et surtout en bas les mangas de mes enfants. Ouais. Et donc ici, c'est des livres qui sont là en transit. Il y a quelques exemples parmi mes propres bouquins, mais voilà. Justement, c'est bien d'être dans un endroit où on n'est pas. Et pour moi, pour écrire, j'aime bien ne pas être écrasé par les bouquins, justement, par les livres. J'aime bien dans une pièce un peu vierge de livres. Et en fait, quand ça arrive, j'aime bien écrire dans les hôtels aussi.
Ah oui. Et puis, alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi la notion de masque dans votre livre. Par exemple, il y a tout un chapitre sur les pseudonymes qui sont absolument... Enfin, c'est hallucinant, quoi.
Ça, une fois de plus, c'est parce que c'est toujours considéré de mauvais goût de rappeler le vrai nom des gens, alors que moi, je trouve ça toujours amusant. Je veux dire, ça, c'est un livre que j'avais acheté. Je les ai trouvés dans un livre que j'avais acheté chez Mona Lisa il y a 25 ans, qui s'appelle Le vrai nom des stars. Et on a aussi bien le nom de stars de la pop que tous les vrais noms des papes. Et donc, et avec mes amis, on faisait des quiz. On disait, tiens, quel est le vrai nom d'un tel, un tel, un tel, un tel. Et parfois, par exemple, voilà, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi, sauf quand c'est des raisons historiques et politiques et tragiques, bien sûr, mais pourquoi les gens ont changé leur nom. Par exemple, Richard Klederman, le pianiste, il s'appelle Philippe Pagès. Donc voilà, c'est, C'est un nom du sud-ouest, donc c'est toujours amusant de se dire voilà quelle aurait été la carrière de tel chanteur si c'était voilà Félix Nadar s'appelait Félix Tournachon, ouais. Maurice René il s'appelait Maurice Robinet, ouais. Donc mais oui c'est toujours amusant parce que d'imaginer la carrière de la personne en question avec sous son vrai nom, est-ce que cette carrière aurait été possible?
Ça casse un peu le mythe parfois.
Oui, ça c'est mon côté gratté, aller voir ce qu'il y a un peu derrière. Ça casse le mythe. Et puis voilà, ou Jean-Pierre Cassel qui s'appelle Jean-Pierre Crochon. Ouais. Voilà, et donc Vincent Cassel, c'est Vincent Crochon. Mais c'est, en même temps, c'est des noms, voilà, c'est des vieux noms presque, qui sont même un peu le terroir, c'est amusant.
Alors, est-ce que le fait d'être adepte ou non du mauvais goût, le mauvais goût d'aujourd'hui sera sans doute le bon goût de demain?
Tout à fait possible. Mon livre était périmé du jour même où il est sorti en librairie. Et j'espère que... Pardon, que d'autres gens vont creuser le sillon, parce que je vois à quel point ça amuse et aussi ça agace, qui est le principe. J'espère que mon mauvais goût sera un jour un bon goût, redeviendra du mauvais goût. Voilà, c'est un cycle de toute façon.
Parce qu'on pense au baroque, on pense à, par exemple, je sais pas, même des créations comme le facteur cheval peut passer pour du mauvais goût, le côté baroque ou le côté zen, enfin bref, les modes changent. Et vous dites d'ailleurs, le mauvais goût restera toujours préférable à l'absence de goût.
Bah oui, bah ça de toute façon, la neutralité c'est sinistre. Je préfère un endroit mochard, kitsch une chambre d'hôtel grise, taupe, béjasse, où tout est uniforme. Je préfère être dans un petit logis de France, un petit peu ringard au fin fond de la campagne française, plutôt que dans un parc Hayat avec des gens qui ont la même tête et où on a l'impression d'être dans Bienvenue à Gattaca.
Donc vous avez été enfant pendant les années à la mi-chemin des années 70. C'est un paysage que vous aimez bien, enfin une sorte de parce que là c'est vrai que ce côté années 70 est très présent dans votre livre.
De toute façon c'est un livre, on parle de soi et donc c'est voilà, mon goût s'est formé comme tout le monde dans l'enfance et dans l'adolescence, donc c'est des périodes voilà qui me parlent. Dès que je vois un film qui se passe dans les années 70, quand j'en vois Le jour peur sur la ville ou quand on voit les films de Maurice Pialat, il y a un grain qui moi m'évoque des souvenirs d'enfance, donc forcément il y a quelque chose de à la fois de très lointain et de très rassurant et de très familier. Je revoyais l'autre jour La gueule ouverte, qui est vraiment pas un film gay mais qui est un film sublime. Bon, Pialat est un des cinéastes favoris, mais bah les gens ont la tête et les vêtements des gens que je voyais qui remontent à mes premiers souvenirs visuels. Donc voilà, il y a quelque chose de, Dieu sait c'est pas un film joyeux, mais quelque chose de qui me voilà, ou les films de Joël Seria, des films comme La Lune ou Les Galettes de Pont-Aven, ou plein de films ou les films de Sautet, deuxième période années 70. Enfin, tous ces films là ça ressuscite juste des souvenirs et des sentiments très très lointains, en même temps qui remontent, voilà, je fais une sorte d'archéologie esthético-sentimentale où je me sens chez moi, tout simplement.
Bon. Merci à vous, Nicolas Détiemdorf.
Merci beaucoup.
Et puis à la fois prochaine, peut-être pour un autre livre, je suppose qu'il y en a déjà en préparation.
Absolument.
Merci.
Merci beaucoup.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons, et y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris.
Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie môme. Paname, ce soir j'ai envie de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris, tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la scène et les noyers, ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire poser, mais les gens savent pas qui tu es, ils vivent chez toi mais te voient jamais. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas y'a monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, monte avec moi, combien veux-tu? Il y a 2000 ans que t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme, si tu pleurais, j'aurais tes larmes, si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom.